Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
8h41, Laurent Gérard fait déjà des pompes avec toute son équipe pour nous rejoindre dans quelques instants. Ils seront en grande forme. Mais tout de suite, la revue de presse, Isabelle Choquet. Et dans nos journaux ce matin, le chant des sirènes, Isabelle.
Savoir écouter le chant des sirènes. Joli titre dans le courrier Picard pour une vraie question. Notre système d'alerte ne serait-il pas obsolète? Hier matin, vers 11h, un bruit long et strident a retenti dans le centre-ville d'Amiens. La sirène d'alerte installée sur le toit de l'église Saint-Rémy. Alors, panique dans les rues? Un petit peu d'inquiétude au moins? Ben non, rien du tout. Juste un type qui ferme sa fenêtre en râlant. Cette sirène, c'est vrai, on l'entend tous les premiers mercredis du mois pour les tests. Mais là, on est mardi. C'est aussi un test, mais si ça avait été une véritable alerte, ben, c'était pareil. Tout le monde s'en fiche. Ce système mis en place après la Seconde Guerre mondiale doit prévenir d'un danger imminent, catastrophe naturelle ou accident industriel. Mais est-il encore efficace? Eh bien, la question prend un relief tout particulier après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Cette nuit-là, alors que le feu s'est déclaré à 2h30 du matin, les sirènes d'alerte n'ont été déclenchées qu'à 8h moins le quart. Une décision assumée par le préfet. Est-ce qu'il fallait déclencher les 31 sirènes sur toute l'agglomération à 4h du matin alors qu'on avait la totalité de la population confinée, ou attendre vers 7h moins le quart au moment où les gens vont travailler? Bon, c'est le choix que j'ai fait. Un peu tard quand même pour beaucoup de Rouennais qui étaient déjà en route pour le travail ou l'école. En 2022, cela dit, une directive européenne devrait imposer un système d'envoi de messages personnalisés sur tous les téléphones portables.
Alors, logique à l'ère des réseaux sociaux, des réseaux qui ont vu naître il y a un an le mouvement des Gilets jaunes.
Il y a un an, exactement. Le samedi 23 octobre 2018, un certain Thibault crée sur un coup de tête un groupe Facebook pour organiser une manifestation contre la hausse du prix de l'essence dans sa Bretagne. Il avait prévu un rassemblement début novembre devant la préfecture du Finistère. À ce moment-là, il pense qu'il sera suivi par une petite bande de passionnés de bagnoles comme lui, mais on commence à le contacter de toute la France. Et c'est là qu'intervient un certain Éric Drouet, un chauffeur routier de Seine-et-Marne qui ajoute notre breton à une conversation Facebook d'une trentaine de Français en colère qui veulent protester. C'est là qu'on a choisi la date du 17 novembre, explique Thibault. C'est la genèse absolue des Gilets jaunes. Genèse relatée par les décodeurs du site du Monde. Tout a commencé en fait une dizaine de jours plus tôt, le 15 octobre. Ce jour-là, Éric Drouet crée un groupe Facebook baptisé « Stop au carburant au prix de l'or ». Quelques jours plus tard, ce sera les automobilistes en colère qui deviendra la France en colère. Évolution qui en dit long. Hein. Dès le départ, la grogne contre l'essence chère n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il s'agit bien de rassembler tous les mécontents. Quelques mois plus tard, le groupe compte plus de 340 000 membres. Il y aura ensuite la vidéo virale d'une internaute quinquagénaire en colère, Jacqueline Moureau. Mais la tout décisive, ce sera Franck Buller, un community manager très politique, ancien membre du Front National, qui a rallié debout la France. Dans une vidéo, il propose un plan d'action qui va devenir le mode opératoire des Gilets jaunes. Contactez vos amis localement, allez bloquer les routes d'accès à votre ville, les rocades, les péages d'autoroute s'il le faut, allez dans la rue, sortez et bloquez tout le pays, voilà ce qu'il faut faire. Avec le recul, un militant résume, il y a eu une conjonction des hasards, la bonne chose au bon moment. À ce moment-là, la cocotte était prête à exploser. Tout autre chose dans le Figaro, un cocorico, le leader mondial de la production audiovisuelle sera bientôt français, monsieur. Banijay, quatrième mondial, va racheter le numéro 1 en démol. C'est le petit poisson qui mange le gros. Énorme deal dans le PAF, près de 2 milliards d'euros. Alors pour vous donner une idée, Banijay aujourd'hui, c'est notamment Koh-Lanta, Fort Boyard, N'oubliez pas les paroles ou Touche pas à mon poste. En démol, c'est The Voice, Les Ch'tis, Money Drop, mais aussi désormais beaucoup de fiction. Et ça, à l'heure de Netflix et du streaming, bien ça vaut de l'or. Belle affaire donc et belle victoire pour le patron de Banijay, Stéphane Courby, ex-patron d'Endemol France. Figurez-vous, il avait fait le loft pour M6. Belle victoire et réussite spectaculaire. Lui qui a démarré à la télévision en tant que stagiaire de Christophe de Chavannes.
On termine avec une bonne histoire.
L'histoire d'un ticket d'euro-million à 10 millions d'euros qui a bien failli finir à la poubelle. Le joueur avait tenté sa chance au jackpot à 190 millions qui ne trouvait pas preneur. Mais tellement concentré sur l'objectif, quand il a vu que c'était raté pour le gros lot, il a voulu jeter son billet. Il s'est souvenu, mais vraiment à la dernière seconde, que bon, il n'y a pas que les gagnants de rang 1. Alors, il a vérifié le reste quand même. Et oui, pas de doute, 5 numéros et une étoile. Bon, c'est pas le jackpot, mais tout de même 5 millions d'euros. Et le site de la Française des Jeux indique qu'il y a 2 gagnants en Europe, mais le deuxième, c'est lui aussi. Il a validé 2 grilles avec les mêmes numéros. Et hop, 10 millions d'euros. Alors pourtant, notre gros vénard ne saute pas de joie. Parce qu'au même moment arrive un invité chez lui. Je me suis comportée comme d'habitude pendant toute la soirée, c'est ce qu'il raconte dans Le Parisien. J'ai attendu qu'il soit parti pour exploser de joie dans mon salon. On imagine la scène.
C'était la revue de presse d'Isabelle Choquet.